avec ces révélations terribles, voici que nous y sommes. La parole de Dieu, énergique et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, qui partage l'âme et l'esprit, qui juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Voici que nous y sommes. Que faire? J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré à toutes les richesses. Et tous les biens me sont venus par elle. Je ne voudrais pas, ce n'est pas le lieu ni le temps, commenter ce rapport, ce qu'il nous révèle, frères et sœurs. Il faut que nous ayons d'autres dialogues pour le faire, et pas seulement un dimanche parce qu'on vient de recevoir un choc terrible, mais dans le temps. Un travail déjà commencé, mais à, non seulement à poursuivre, mais à une plus grande ampleur. Et je voudrais vous partager quelques éléments de discernement qui, personnellement, me viennent dans ma méditation, ma prière, ma recherche du bien. D'abord, la question de la vérité et de la réalité. Parce qu'il y a non seulement les crimes commis, mais il y a en plus l'indifférence pour les victimes. Et il y a encore en plus, de la part de prêtres du Seigneur, des arrangements pour que la vérité ne se sache pas trop. Il nous faut recevoir la réalité, quelle qu'elle soit. Ce qui est vrai est vrai. Je ne dis pas, il faut mettre dans le contexte, il faut un certain nombre de choses, je ne dis pas. Mais nous ne pouvons pas être ni humains, ni chrétiens, sans nous mettre à l'école de la vérité. Et la vérité, c'est que nous nous mettions relatif à la réalité de ce qui est arrivé, de ce qui arrive, de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas y échapper dans ce domaine comme dans tous les autres absolument. Pourquoi ? Pour une raison très profonde. La vérité et la réalité ont un principe unique, qui est Dieu lui-même. Il est la réalité première, il est la vérité première, il est la source de toute vérité, à tel point que déjà les pères de l'Église, nous sommes au IVe siècle, et saint Thomas d'Aquin le reprendra, disent « Toute vérité, qui que ce soit qui la dise, vient de l'Esprit Saint. » IVe siècle. C'est un grand combat de l'Église catholique depuis les origines, non seulement de lutter contre les péchés de ses membres, mais d'apprendre à accueillir la vérité d'où qu'elle vienne. Toute vérité, qui que ce soit qui la dise, vient de l'Esprit Saint. Dans son encyclique sur la joie de l'Évangile et l'évangélisation, Un des grands principes que nous rappelle le Saint-Père François est ceci: la réalité est supérieure à l'idée. Pourquoi ? Parce que nous nous faisons toujours une certaine idée, toujours insuffisante, jamais réellement adéquate, de la réalité, de la profondeur, de l'ampleur et de la cohérence de la réalité dans tous les domaines. Si toute réalité et si toute vérité viennent de Dieu, nous avons un grand effort de foi à faire, qui est celui-ci: accueillir les événements qui nous sont manifestés par la vérité de la réalité comme des appels de Dieu lui-même, qui nous touche dans notre existence concrète et non pas dans l'idée que nous aimons bien nous en faire. Nous ne devons pas avoir peur de la réalité. Dieu s'en sert pour nous construire. Et nous devons avoir foi que la vérité est un bien pour nous, quelle qu'elle soit, dans quelque ordre que ce soit. Nous en avons besoin pour asseoir notre vie sur un fondement solide. Sinon, nous construisons des discours et des illusions. Et nous pouvons rendre les autres victimes de nos propres constructions dans notre esprit. Deuxième élément de discernement, frères et sœurs, que nous devons reprendre à neuf. Pourtant, l'enseignement de l'Église est très riche sur ce point, notamment celui de Saint Jean-Paul II. C'est la structure de la personne humaine. La personne humaine, dans sa réalité, j'allais dire humaine, mais aussi dans sa réalité de grâce, comprend non seulement son âme, son cœur, son esprit, ses facultés spirituelles, que sont l'intelligence et la volonté, sa liberté, sa dignité, sa conscience, mais aussi sa chair et ses relations avec les autres. Autrement dit, notre constitution, pas seulement physique, mais charnel, c'est-à-dire tout ce que notre corps porte de vécu, qui nous façonne en joie comme en blessure, n'est pas extérieur à notre personne, mais est constitutif de la dignité intérieure de notre personne. Tout ce que nous vivons dans nos relations avec les autres n'est pas extérieur à nous, mais intérieur à nous. Ce que vit notre chair, ce que nous vivons dans nos relations avec les autres, sont partie intégrante de l'édification de notre personne, qui est indissolublement une âme dans un corps, un esprit dans la chair. Je vous recommande, frères et sœurs, je crois qu'il faut le faire, de lire, d'entendre les témoignages des victimes. Nous comprenons alors, à leur écoute, les retentissements profonds, extrêmement profonds, extrêmement durables de ces crimes terribles sur le fond même de leur personne, sur la façon de se situer, d'être libre vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Tout cela est touché quand on touche au corps de la personne à travers nos relations avec elle. Le respect que nous nous devons les uns aux autres est lié à cette structure de ce qu'il y a de plus grand dans le monde, dans tout l'univers créé, qui est la personne humaine. Et il est redoublé, frères et sœurs, au plan de la grâce. Paul dit quelque part, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» En touchant des personnes à travers leur chair, nous touchons jusqu'au Christ. Ce n'est pas pour rire que dans l'Évangile, il s'identifie à eux. Ce n'est pas une sorte de leçon seulement morale. C'est la réalité profonde de la grâce. Ce n'est pas pour rien qu'il s'offre sur la croix dans son corps, dans sa chair. Il porte tout cela en lui. Nous devons profondément, je crois, méditer cela pour que nos relations entre nous puissent être profondes, réelles, et pas seulement une sorte d'interdit moral qui, quand toutes les digues sautent, saute aussi. Troisième élément de discernement, de sagesse, tout à l'heure, dans quelques instants, comment pourrons-nous dire « Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. » Comment ? Suffit-il simplement de faire un bel acte de contrition ? Allez, on demande pardon, on fait un effort, ça va aller mieux. Est-ce nouveau qu'il y ait des pécheurs dans l'Église ? Et moi qui suis baptisé, et moi, religieux, prêtre, je n'ai violé aucun enfant, mais je ne serai pas pécheur. Comment puis-je penser l'appartenance à l'Église de chacun de nous, de moi-même et des coupables ? Dans le mystère de l'Église sainte. C'est une réalité de foi, frères et sœurs, qui n'est accessible qu'à la foi. Ne demandons pas aux analyses sociologiques, elles n'ont pas cet instrument. On ne peut pas leur en vouloir non plus, ni en faire un prétexte pour ne pas entendre ce qu'ils nous disent. Ce mystère a habité la réflexion chrétienne depuis les origines. Le Concile Vatican II le reprend ainsi. Tandis que le Christ, saint, innocent, sans tache, ignore le péché, c'est-à-dire est sans péché, venant seulement expier les péchés du peuple, et c'est toujours vrai jusqu'à la fin des temps, l'Église, elle, enferme des pécheurs dans son propre sein. Elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Autrement dit, dans l'Église, un seul et saint, le Christ. C'est ce que nous allons chanter avant la prière eucharistique, « Saint, 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 le Seigneur ». C'est lui le Saint qui vient au milieu de nous. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes saints. Nous sommes là pour demander sa sainteté, c'est assez différent. Un seul et saint, et l'Église est en quelque sorte adéquate à la part de sainteté en nous. L'Église est le plus elle-même dans la Vierge Marie et les saints qui ont vécu de la sainteté du Christ, qui n'appartient en propre qu'au Christ. Et l'Église, c'est cet appel que nous recevons et ces moyens qui nous sont donnés, pour que un peu plus que d'autres, et au nom du monde entier, nous prenons conscience de notre misère, nous demandions au Seigneur sa grâce, et lentement, petit à petit, nous reconnaissant toujours pécheurs et prêts à tomber, nous nous laissions convertir par Dieu qui seul est saint. Le mystère de l'Église, c'est cela, la sainteté de la Trinité qui nous est offerte par le Christ et dans l'Esprit. Tout le reste dans l'Église sont des moyens pour cela. Absolument tout le reste, jusqu'au pape lui-même et toute la structure des sacrements, la parole de Dieu, absolument tout. Frères et sœurs, je m'arrête là. Demandons à l'Esprit Saint un surcroît de réalisme et de foi pour travailler avec Dieu à notre propre conversion. Amen.